au musée d'aviation de College Park, situé sur le terrain du plus ancien aérodrome en usage continu. Ce musée documente les triomphes et les déboires des pionniers et des technologies qui sont l'histoire de cet aéroport. Station numéro 1, de Kitty Hawk, Caroline du Nord à College Park, Maryland. Le 17 décembre 1903, deux frères de l'Ohio s'envolèrent dans l'histoire en achevant le premier vol piloté d'un avion motorisé. Mais c'est juste le commencement de l'histoire des avions. Le gouvernement des États-Unis démontrait peu d'intérêt à cette nouvelle technologie jusqu'à d'autres nations et d'abord montrer leur intérêt à cette invention. Enfin, en 1908, les Wright ont un contrat du gouvernement pour délivrer un avion à l'US Army. Ce nouvel avion, nommé le Wright Flyer, fut sorti en 1908. C'est cet avion qui se mit à démontrer la satisfaction des spécifications du contrat du gouvernement à une compagnie d'essais à Fort Myer en Virginie. Au cours des essais, l'avion s'écrasa dans un atterrissage brutal, tuant le lieutenant Selfridge, le passager, et blessant Orville Wright, le pilote. Mais les frères Wright reconstruisent l'avion et reviennent l'année suivante pour finir de démontrer la satisfaction des conditions du contrat du gouvernement. Cela comprend voler à 40 000 à l'heure, environ 90 km à l'heure, distance franchissable de 125 000, environ 275 km, avec deux occupants et une endurance d'une heure. La dernière obligation du contrat demandait que deux officiers apprennent à faire voler la machine. Le terrain de Fort Myer était très restreint, mal adapté aux essais en vol et les grandes foules que l'avion attirait seraient aussi en danger. Le gouvernement avait besoin d'un autre terrain d'essai. Un grand champ plat près de Maryland Agricultural College, aujourd'hui l'Université de Maryland, offrait plusieurs avantages. Il était près d'une ville florissante, accessible par train et tramway. C'était aussi moins accessible que Fort Myer, et Wilbur et les militaires espéraient, l'un comme l'autre, que cela découragerait les visiteurs indésirables. C'était l'endroit idéal pour apprendre à voler aux officiers. Station 2. Une journée dans la vie de College Park en 1909. Nous sommes maintenant dans une reproduction partielle du hangar originalement construit pour le Wright Military Flyer. Rencontrez Wilbur Wright. Regardez les photographies qui illustrent l'avion en vol et Wilbur apprenant à voler au lieutenant Frank Lamb et Frederick Humphreys et plus tard Benjamin Fouloir. Remarquez la catapulte et le monorail utilisés pour le lancement de l'avion Wright. Pour les 10 soldats détachés à ce poste, le hangar était aussi leur domicile. Ils auraient dormi sur des lits comme celui qui est devant vous. Le 8 octobre 1909, Wilbur Wright commença l'entraînement au vol à l'aérodrome de College Park, emmenant ses étudiants comme passagers le premier jour. Lamb et Humphreys firent leur premier vol en solo le 26 octobre, après un peu plus de 3 heures d'instruction. Au début novembre, Wilbur quitte le terrain et en remplit son contrat avec le gouvernement. Les pilotes furent réassignés dans l'armée et l'école déménage au Fort Sam Houston au Texas avec l'avion et Fouloir qui n'avait pas eu une chance de voler en solo. Mais l'armée avait d'autres plans pour le champ de College Park. Établir la première école d'aviation de l'armée. Formation 3, l'école d'aviation de l'armée, 1911 à 1913. En sortant du hangar, vous vous trouvez devant une maquette du Wright B, faite pour le musée par Ken Hyde et l'expérience Wright. Cet avion fut construit par la première école d'aviation de l'armée établie par le gouvernement en 1911. Le Wright B était conçu pour avoir des commandes instinctives. De chaque côté, les bâtons contrôlent la profondeur, tandis que le bâton central contrôle le lacet et le gauchissement des ailes. Le siège où ils apprenaient à voler était déterminé selon que les pilotes étaient droitiers ou gauchers. L'avion même était fabriqué en bois, mais peint avec de la poudre d'aluminium pour masquer ce fait. Cet avion fut seulement un des plusieurs modèles achetés par l'armée pour l'école à aviation. En plus de deux Wright B, il y avait aussi deux monoplans Curtiss à hélice propulsive et un Wright Burgess, un Wright B fabriqué par la compagnie Burgess Wright, tous utilisés à l'entraînement des officiers. L'aérodrome s'agrandit pour aménager plus d'avions, avec 7 hangars d'avions, un quartier général, un réfectoire et une tente d'hôpital. Parmi les instructeurs de l'école, il y avait Henry Arnold, qui deviendrait général en chef de l'armée de l'air pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le lieutenant Thomas Willing, général de brigade de l'Air Force plus tard. Les instructeurs Wright s'entraînaient à la Wright School dans l'Ohio et les instructeurs Curtiss s'entraînaient à la Curtiss School à San Diego, en Californie. Les deux groupes allaient alors à College Park pour partager ce qu'ils avaient appris aux autres officiers. Au-dessus de Wright Bay est suspendue une maquette du Blériot 1912, un avion fameux pour avoir traversé la Manche en 1909. En 1912, des pilotes de l'école Moissant à New York, y compris le nouveau pilote Bernetta Miller, ont démontré cet appareil au service officiel de l'armée à College Park. L'armée rejeta cet avion, préférant les biplans qui étaient familiers aux officiels de l'armée. Mais cet avion trouva une niche dans le marché civil. Le modèle en étalage a été construit ici par l'atelier de restauration du musée. Pendant les hivers 1911 et 1912, l'école déménagea à Augusta, en Géorgie, pour profiter d'un climat plus chaud. En novembre 1912, les avions Curtiss allèrent à San Diego et les avions Wright restent à Augusta. En mi-1913, l'armée décide d'abandonner College Park comme école et établit une école d'aviation militaire permanente à San Diego. Station 4, le meilleur des deux mondes, aviation militaire et civile, 1910 à 1921. Derrière le Blériot et la grande peinture murale, il y a une petite galerie qui illustre l'histoire de l'aéroport au temps de l'école d'aviation de l'armée, y compris l'aviation civile florissante après le départ de Wilbur Wright. L'étalage illustre des collections associées aux exploits et aux individus associés à cet aéroport. Pendant sa courte existence, l'école d'aviation militaire a été le centre de beaucoup de premières, y compris les premiers essais d'un viseur de bombardement à bord d'un avion, 1911, et le premier tir d'une mitrailleuse à bord d'un avion, 1912, comme la mitrailleuse Lewis exposée ici. Au début de 1910, la Rex Smith Aeroplane Company et d'autres compagnies civiles ouvraient des ateliers sur l'aérodrome. Des compagnies comme la National Aviation Company et la Washington Aviation Company entretiennent les avions Curtiss Wright et Blériot en même temps qu'ils poursuivaient leurs propres projets et dessins. En 1918, l'aérodrome de College Park fut choisi par la Poste des États-Unis comme le point de départ du premier service postal national. Le vol inaugural de Washington à New York eut lieu le 12 août 1918 avec le pilote Max Miller. En 1919, la croissance de l'Air Mail Service demande un nouvel hangar et une rose des vents sur le tarmac pour calibrer les compas. Tous les deux sont encore ici. On peut les voir dans le quartier historique de l'aéroport près de la ligne de chemin de fer. Le service de poste par avion cesse en 1921 avec l'ouverture du service New York-Californie. En 1926, tous les services d'aéropostal sont passés au secteur privé pour améliorer le rendement. Sur le mur au fond, il y a un diorama qui illustre l'acteur Douglas Fairbanks Sr. qui, en 1918, s'est fait envoyer en colis aéropostal de College Park pour une promotion du nouveau service et souscrire des fonds pour les bons de la liberté. Station 5. Les avions de l'aéropostal. Revenons à la grande galerie, on voit une restauration d'un Curtiss Jenny, un prêt de Forcil. Un des avions préférés de la Première Guerre mondiale, le Jenny servit après la guerre dans le marché civil. De même que d'autres types d'avions comme le de Havilland DH-4, le modèle JN-4H emportait le courrier aéropostal, le courrier occupant le siège avant et le pilote le siège arrière. Ce modèle est un des modèles précédents, le modèle JN-4D. Max Miller, pionnier de l'aéropostal, est devant la Jenny avec l'horaire des vols. Remarquez son blouson en cuir épais pour le protéger des intempéries et des flammes en cas d'incendie. Les lunettes protégeaient les yeux du vent, des débris, des insectes et de l'huile de ricin que les moteurs de l'époque vomissaient continuellement. Pour les pilotes de l'époque, l'écharpe servait à la fois de protection et de chiffon. À côté de Jenny, l'étalage expose beaucoup de photos et d'articles des pionniers de l'aéropostal, de même que les timbres et les cancellations employés par la poste. De l'autre côté, abordez le simulateur et faites voler la Jenny à College Park. Station 6, la salle des manipulations. Maintenant que vous avez vu quelques avions de l'ancien temps, il est temps d'en apprendre un peu plus sur ce qui leur permet de voler. La salle des manipulations a des expériences pour les enfants et les adultes de tous les âges. Ici, vous pourrez aussi voir quelques exemplaires d'hélices, de nervures d'ailes et de moteurs qui ont contribué à l'histoire de l'aviation. Sur le mur à gauche, soyez sûr d'essayer la démonstration de l'effet de Bernoulli. C'est un des principes de base du vol aérien. L'idée directrice est que si la vitesse de l'air augmente, la pression ambiante diminue. Réciproquement, si la vitesse de l'air diminue, la pression ambiante s'accroît. Sur un avion, l'air va plus vite sur le dessus de l'aile, l'extrado, et plus lentement en dessous, l'intrado. Cette différence de pression donne la portance qui permet à un avion de voler. La démonstration de comment vole un avion illustre ce principe. Au milieu du mur du fond, on peut voir la soufflerie du musée adaptée d'après celle des frères Wright pour essayer différents profils d'ailes. Donnez-lui quelques instants pour se mettre en route et se stabiliser et manipuler le levier du dessus pour changer l'incidence du profil d'aile. Notez comment des angles différents changent le courant d'air autour du profil d'aile. Sur le même sujet, essayez la canalisation d'eau au mur du fond à gauche. Utilisez les aimants pour voir à l'intérieur comment le courant s'écoule autour de différents profils. Maintenant, mettez tout ce que vous avez appris à l'épreuve en prenant les commandes de notre simulateur et envolez-vous de l'aéroport de College Park. Selon que vous aimez l'art et l'artisanat ou les lois de la physique du vol, ou les deux, la salle d'expérience à tout. Station 7, une nouvelle façon de voler. Directement en face de la salle d'expérience, on trouve l'hélicoptère Berliner 1924, le plus ancien hélicoptère intact au monde d'après la Smithsonian Institution. L'équipe de Émile et Henri Berliner, père et fils, ont basé leurs essais de vol vertical contrôlé à l'aéroport en 1920. C'était parfaitement logique, car Émile était un des patrons de la Washington Airplane Company, basé sur le terrain jusqu'aux environs de 1918. Le 23 février 1924, il accomplit ce qu'est considéré le premier vol vertical contrôlé. Cet hélicoptère était capable de se déplacer sur un rayon de 150 pieds, environ 50 mètres, à 40 000 à l'heure, environ 60 km à l'heure, à environ 15 pieds, environ 3 mètres du sol. Cette machine emploie le fuselage d'un biplan Newport 23. Le métrage de film devant l'hélicoptère illustre les progrès des engins de ce duo, progressant d'un simple châssis, moteur et hélice jusqu'à leur dessin final, exposé ici. Ce succès primitif en vol vertical fraye le chemin pour le premier hélicoptère utilisable d'Igor Sikorsky en 1940. Les étalages autour de cet hélicoptère illustrent l'histoire d'Henri Berliner et ses appareils comme l'embouchure du téléphone et le disque de phonographe plat. Pour la première fois, ils ont permis la production en série de sons de haute qualité, des artefacts des compagnies fondées plus tard par Henri Berliner sont aussi exposés. Les réalisations de son Engineering and Research Corporation, ERCO, et de leur typique avion, ERCOUPE, l'avion blanc au fond de la galerie, en haut, contribue aux legs de cette famille à College Park. Station 8, l'âge d'or de l'aviation. Juste au-delà de l'hélicoptère, il y a un kiosque démontrant ce qu'était la vie à l'aéroport de College Park aux années 1920 à 1930, l'âge d'or de l'aviation. À l'époque, le monde était complètement fasciné par l'aviation et les aviateurs. Commençant en 1927, sous l'administration de George Brinkerhoff, l'aéroport organisait régulièrement des concours d'aviation qui attiraient beaucoup de concurrents, de fameux et audacieux pilotes et des milliers de spectateurs. Au plafond, le monocoupe rouge était en vogue pour les courses tenues ici aux années 1930. Brinkerhoff était et réputé d'avoir appris à voler à plus de candidats que tout autre pilote dans la région de Washington. Le Taylor J2 jaune est l'avion qui était courant à l'époque pour l'entraînement au pilotage. On le voyait habituellement sur la plupart des aéroports. William P. Piper acheta la Taylor Aircraft Company peu après la sortie de ce modèle et les modèles suivants furent alors nommés Piper Cub. Cet avion est toujours extrêmement populaire aujourd'hui. La salle derrière la grande peinture murale documente l'histoire de l'aéroport. On peut écouter les comptes rendus des hommes et femmes qui ont volé ici, témoins de l'histoire contemporaine. Dans les vitrines, on peut voir des artefacts des courses aériennes et expositions faites à College Park Airport pendant les années Brinkerhoff. De 1926 à 1934, le National Bureau of Standards, NBS, a basé sur cet aéroport le développement des balises radio pour le pilotage sans visibilité, PSV. Des biplans avec une capote qui forçait les pilotes à voler seulement sur leurs instruments servaient à essayer les nouvelles aides. En septembre 1931, le premier atterrissage sans visibilité fut réussi à College Park. Après, en 1934, arrive le premier vol en PSV de College Park à Newark, New York, un des premiers aéroports équipés de ces aides à la navigation. Le Washington Institute of Technology pour les essais au vol prend ses opérations en 1934, utilisant l'aéroport pour encore quelques années. Les WASP, femmes pilotes au service de l'air, qui ont joué un rôle très important pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles pilotaient les avions, servaient à l'entraînement des pilotes et déchargeaient les pilotes des missions hors combat pour qu'ils puissent faire la guerre. Un bon nombre de WASP ont fait leur entraînement au pilotage à College Park, participant à l'Université de Maryland Civilian Training Program, CTPT, programme pour entraîner les pilotes civils. Station 9. Exploits et vols. De retour à la grande salle, vous trouvez un de nos plus grands avions, un Boeing Stearman 1939. Après la Deuxième Guerre mondiale, cet avion fut utilisé ici pour l'entraînement en vol et il était très populaire aux manifestations aériennes de l'aéroport. En particulier, cet avion piloté par Gus McLeod a survolé le pôle Nord en avril 2000. C'est le premier avion à altitude ouverte qui a réussi cet exploit. Volant à des températures en dessous de 50 degrés Fahrenheit et une visibilité presque nulle, Gus a réussi à où de nombreux pilotes étaient morts avant lui en l'essayant. Au retour, il eut une panne de moteur et se posa sur la glace. Gus revient plus tard et découvre que son avion a dérivé de 80 milles vers la Norvège. Finalement, l'avion réparé retourne aux États-Unis et son vol final à l'aéroport de College Park où Gus avait commencé son entraînement au pilotage. À côté du Stearman, l'air coupe une réalisation de l'Engineering and Research Corporation, ERCO, fondée en 1932 par Henri Berliner. Il construit un atelier en face de l'aéroport de l'autre côté de la rue à Riverdale Park et les essais en vol des premiers aircoupes sont faits à l'aéroport. Au sol, la maquette en coupe illustre l'original système de contrôle. Toutes les commandes sont reliées directement au volant, éliminant le palonnier. La vitrine, à côté de l'hélicoptère Berliner, documente l'histoire de l'Airco qui s'agrandit énormément pendant la Deuxième Guerre, fabriquant des tourelles et divers systèmes pour le département de défense. La génie de l'ingénieur Fred Wake, l'homme qui a dessiné l'aircoupe, est également apparent. Est-ce que tous les avions vous donnent envie de voler vous-même? Le Taylorcraft 1937 en bleu vous donne une chance de faire ça. Montez dans l'habitacle de l'avion, de l'imagination, et voyez ce que c'est de s'asseoir et de prendre les commandes d'un véritable avion. Station 10. Prenez de l'altitude. Montez l'escalier pour avoir une autre perspective de la salle et des expositions temporaires. À votre retour en bas, au bout du mezzanine, n'oubliez pas d'essayer le simulateur du Wright Bay et les bâtons de contrôle et de passer par notre magasin Prop Shop pour un souvenir de votre visite. Pour les petits pilotes, il y a aussi des avions à pédales juste en dehors du magasin. N'oubliez pas de prendre notre promenade historique à l'autre bout de l'aéroport. Le bâtiment historique près de la voie ferrée, les fondations restaurées du hangar original de l'armée en 1911 à 1912, aussi bien que la Rose des Vents de 1919, y sont en vedette. Ou bien vous pouvez suivre le chemin extérieur à côté du 94 Aero Squadron Restaurant et voir 6 avions de la Deuxième Guerre qui sont dehors. Merci de votre visite. Revenez bientôt, s'il vous plaît.